Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Avec ce soir pour débriefer l'actu, Marjorie Paillon, journaliste, Salim Nassur, fondateur de Mars avec deux A et ancien directeur marketing de Google Cloud.
J'aime bien
Europe.
La façon dont tu le dis.
Oui, c'est bon.
Ben voilà. Je vais cloner ta voix.
C'est ça.
Va sur Qtail.
Exactement. C'est bon, ça va marcher. Et Frédéric Sibotel, bien évidemment, journaliste à BFM Business, qui vient d'éternuer en plus d'une manière tellement élégante. C'est ça qui est incroyable chez Fred. Même l'éternuement est beau.
C'est vrai.
C'est beau, hein, quand
c'est
même.
C'est vrai, c'est un bel homme.
Autre bel homme. C'est Étienne Braque, toujours avec nous. Bonsoir Étienne.
Bonsoir François.
C'est gratuit, ça fait plaisir. Étienne, bonsoir, journaliste à BFM Business. On va parler de Tesla ce soir.
En effet, avec Tesla qui a publié hier ses immatriculations du deuxième trimestre. Donc, c'est des résultats préliminaires avant les résultats financiers qui seront publiés à la fin du mois, avec un nombre d'immatriculations qui recule au deuxième trimestre de quasiment 5%, sous les 450 000, 443 956 précisément. Alors, c'est un recul, mais c'est un recul moins prononcé qu'anticipé par les analystes, puisque les analystes de FactSet s'attendaient à 436 000 livraisons. Alors c'est un marché qui en recule, ce n'est pas la première fois. Déjà en début d'année, le marché était contrasté. Alors d'un côté, vous avez des analystes de Wedbush qui estiment que le pire est derrière Tesla grâce au mini-rebond enregistré en Chine et une stabilisation des prix. Et puis de l'autre côté, des analystes qui sont un petit peu plus inquiets, qui se montrent beaucoup plus prudents, notamment chez Edmunds, avec notamment des prix qui ont baissé d'une façon importante ces dernières semaines chez Tesla, des marges qui sont en repli, et puis surtout en Chine, des ventes qui peinent à rebondir, d'autant plus que vous avez des prêts à taux zéro qui ont été mis en place en Chine afin de stimuler la demande, et puis surtout des constructeurs chinois qui sont de plus en plus offensifs, que ce soit sur leur territoire, mais aussi en Europe, mais aussi aux États-Unis, avec une montée en gamme et puis surtout des prix plus accessibles que les modèles Tesla. Alors néanmoins, le titre grimpe ce soir de quasiment 4%. Rendez-vous compte, il a gagné plus de 20% depuis vendredi soir, avec donc Wall Street qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis Tesla qui fera encore l'actualité dans ces prochaines semaines avec le robot taxi qui sera développé, qui sera annoncé le 8 août prochain, et puis d'autres annonces qui ne sont pas à exclure demain, puisque Elon Musk devrait faire des annonces lors d'un salon international dédié à l'intelligence artificielle. Ça sera à Shanghai.
Voilà, donc on risque d'avoir encore pas mal de choses à raconter concernant Tesla. Merci beaucoup Étienne Braque. Alors messieurs, dames, Tesla, voilà, mauvaise passe, c'est ce que disait Étienne hier, les ventes, enfin en tout cas les ventes s'effondraient. Visiblement, c'est pas si grave que ça, tout va bien. En tous les cas, il semblerait qu'il y ait un rebond de vente de véhicules électriques.
Alors, est-ce qu'on peut revenir à la promesse initiale d'Elon Musk il y a quelques années en lançant Tesla?
Premier constructeur mondial.
Voilà, exactement. La réalité, c'est qu'on n'y est pas vraiment. On ne va pas se mentir, on n'est pas sur le premier constructeur mondial en matière de véhicules électriques et peut-être de véhicules avec un certain degré d'autonomie par ailleurs. Aujourd'hui, il préfère plutôt parier, Étienne le disait, sur l'IA et sur la robotique. On a tous ici beaucoup parlé de ces images incroyables, notamment d'Optimus et des robots qui sont développés au fur et à mesure par Tesla. Donc, est-ce que finalement, ce qui semblait être de la R&D, un side business, va devenir une ligne stratégique plus importante chez Tesla? Ça, c'est vraiment ce qu'il va falloir observer dans les mois, les semaines, les années à venir. Et puis, il y a quand même un concurrent sérieux pour Tesla sur ce marché des EV, des véhicules électriques. C'est BYD, c'est le chinois, qui en l'occurrence produit plus vite que lui, plus que lui.
Et moins cher.
Et surtout, qui lui est en train de dépasser ses propres records. Je crois que sur ce trimestre-ci 2024, on a 20% de plus de voitures produites et vendues que ce n'était le cas sur le premier trimestre 2024. Mmh. Et en plus, juste une toute question de soft power et pour les amateurs de foot qui pourraient nous regarder éventuellement. Je rappelle que BYD... BYD, c'est le sponsor officiel de Euro FIFA 2024 en Allemagne et pas Volkswagen. Donc, même en matière d'image et en matière, encore une fois, de soft power, il y a des concurrents de
changement
Tesla.
Changement d'époque, quand même. BYD qui remplace Volkswagen.
Non, mais quand même.
C'est symbolique.
En
Allemagne, en plus.
Oui, mais quand aujourd'hui, on a accumulé plein de problèmes de production de Tesla, quand on a débattu de est-ce que le Cybertruck va vraiment pouvoir circuler ou pas, quand il y a eu des problèmes sur l'accidentologie aussi de Tesla dans certains États américains, sur les véhicules autonomes, quand on a parlé de tous ces revirements de stratégie-là du côté d'Elon Musk et que finalement, aujourd'hui, la figure d'Elon est peut-être plus problématique pour les marques et les entreprises qui les représentent qu'autre chose, ben c'est intéressant.
Après, petite réflexion avant de vous donner la parole, hein, Salim et Fred, on est dans un contexte aussi où aujourd'hui, tout le monde attend de la part de Tesla une petite voiture à moins de 25 000 $.
Et on sort le Cybertruck.
N'arrive pas, alors que BYD, lui, a un plan là-dessus. Et bien évidemment, il va inonder l'Europe avec des voitures qui seront à 25, voire même 20 000 €. Donc, on attend Elon Musk là-dessus. Il y a une rumeur comme quoi ça serait dans les cartons, mais c'est toujours décalé. Il y a ce robotaxi. Est-ce que le robotaxi va régler tous les problèmes? Je suis pas sûr, hein, parce que le robotaxi, c'est valable que dans certaines villes américaines, peut-être en Asie sur des grands axes, mais imaginez un robotaxi à Paris.
Mais là aussi, même, en l'occurrence, sur les robotaxis, il y a aussi des concurrents sérieux en Chine, hein, qui ont déjà fait beaucoup d'essais, qui ont déjà fait leur premier vol. Et,
Salim.
Alors, je vais vous donner une analyse un peu différente. Vous savez, moi, j'aime bien être un peu en biais, mais...
En dérapage.
Pardon ?
En dérapage.
En dérapage. Non, pas en dérapage.
Il a mis le frein à main.
Il fait du drift.
En think out of the box. Ah,
tu donc, fais du drift, en fait, c'est ça ?
Oui, tu fais du drift avec la Tesla.
Je fais du drift avec la technologie, en fait. L'autre jour, justement, c'est marrant, il y a 10 jours, j'intervenais chez un constructeur automobile que je nommais, je vais pas nommer, et pour penser un peu, c'est quoi la voiture du futur ? Okay, dans 5, 10 ans, où sera la voiture ? Et la première chose que je leur ai dit, c'est votre problème, c'est que vous réfléchissez comme un constructeur automobile. Et là, ils m'ont dit, bah oui, c'est ce qu'on est. Je dis, bah c'est bien le problème, en fait. Et je pense, alors je ne suis pas dans les secrets des dieux de Tesla, mais il y a un moment, je pense que Elon Musk ne réfléchit pas comme un constructeur automobile. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à un moment, donc, il était un des tout premiers à avoir fait décoller ce marché, ce qu'il a fait. Océan bleu. C'est-à-dire qu'en gros, c'est, il est là, il a pris les parts de marché qu'il voulait.
Oui, il y avait personne sur la route.
Il n'y avait personne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, dont des Chinois qui arrivent, avec des modèles qui sont moins chers, hyper compétitif et avancé technologiquement. Et là, moi, je serais à sa place, je me dirais, OK, est-ce que je veux aller me battre là-dessus ou est-ce que je cherche un nouvel océan bleu ? Quand vous cherchez une voiture à 25 000 $, lui, il trouve des robots à 10 000 $. Et des robots, il va pouvoir en vendre dans les entreprises, dans les foyers.
C'est pas 20 000 ?
Son objectif, c'est d'aller à 10 000 dollars.
Ouais, 10 000 dollars, d'accord.
L'objectif, c'est d'aller à 10 000 dollars. Donc, il y a un moment, si tu te dis que tu peux mettre un robot dans toutes les usines, dans tous les foyers, peut-être qu'en effet, le focus aujourd'hui d'un Elon Musk, c'est se dire comment je capitalise sur l'IA et sur les robots, et que ce coût-là, il est le coût de la voiture. C'est un coup passé, en fait. Il est déjà au next step, tu vois. Et c'est rigolo parce que dans certaines de mes conférences, j'avais fait une image comme ça avec Midjourney où je montrais l'image que j'ai en première image que j'ai faite. C'était une Tesla qui partait. Et de l'autre côté, tu as un avion supersonique. Et c'est comme ça que j'explique un petit peu le décalage qu'on a entre l'Europe et la Californie souvent. C'est que nous, aujourd'hui, on est en train de découvrir Tesla. Tout le monde se roule en Tesla. Tout le monde est content d'avoir sa Tesla. Mais il y a 10 ans, des gens roulaient en Tesla en Californie, en fait. Donc nous, on est en train d'aller en Tesla. De l'autre côté, ils sont déjà en train de penser au next move. Et je pense qu'Elon Musk, il est déjà parti de ailleurs.
Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Peut-être qu'en effet, que la robotique et l'IA, c'est des relais de croissance pour Tesla.
Mais complètement.
Demain, la stratégie, elle est plus sur la voiture individuelle.
Exactement, c'est ce que je vous dis. C'est que lui, il est déjà sur le next move.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que le marché, il n'est pas sur le next move. Le marché, aujourd'hui, il est dans la voiture. Et aujourd'hui, dans la voiture, tu vois tous les grands constructeurs, pour qui, hormis les luxes, hein, les Porsche, Ferrari, tout ça, mais tous les autres, ils ont une voiture un peu vachalée, une voiture qui ne coûte pas cher, qui se vend très bien.
Et la
qui,
Golf de Volkswagen.
La Golf de Volkswagen.
Oui, ça, c'est quand tu penses constructeur. Regarde le
oui, mais aujourd'hui,
Tesla.
Oui, mais ce que
il
je
annonce
dis...
moins de ventes oui. Et l'action
oui, mais ce
monte.
Que je... Oui, mais ce que je te dis voilà. Aujourd'hui, c'est que je suis d'accord avec toi. Il pense un coup d'avance et tout ça. Mais aujourd'hui, on est le public, les gens qui achètent des voitures, ils sont dans l'univers de la voiture. Et ça, pourquoi il en vend moins parce que les gens, ils sont pas en train de réfléchir à ce qui va se passer. Donc lui, il pense certainement le coup d'après.
Oui, mais il faut pas qu'il se déconnecte du marché actuel.
Mais aujourd'hui, le marché de l'auto, ça reste quand même le marché de l'auto. Et les Chinois et le risque, c'est que alors peut-être qu'un jour il va dire bah Tesla oui bah voilà j'ai fait un test et je continue avec les robots IA et ça me rapportera beaucoup plus et tant mieux pour lui. Mais je trouve qu'aujourd'hui il oublie un peu, même si sa vision, je suis d'accord avec toi, hein, ces robots, ces IA, il y a toute une pensée autour de tout. Et puis même on pourrait même rajouter X et SpaceX et je vais aller sur Mars et l'électrique, etc. Non, enfin voilà, tout et il a toujours une pensée, tout est connecté un peu dans sa tête, et il a des idées assez claires, voilà, de tout ça. Mais là, on parle du marché auto, et le marché auto, aujourd'hui, les clients, le marché auto, il réfléchit auto aujourd'hui. On ne réfléchit pas robot IA. Et là, c'est son grand défaut aujourd'hui. Et les Chinois, eux, ils réfléchissent voiture. Le jour où il faudra réfléchir robot IA, ils y seront déjà. Par contre, oui, le constructeur auto, chez nous, devrait un peu plus avancer. Et il lui manque, pour que ça marche, pour moi, il lui manque cette voiture vachalée.
C'est là où je pense, c'est que, encore une fois, si son entreprise Tesla, c'est une voiture d'automobile, je te suis à 80%, même pas à 100, mais à 80%. Lui, je pense que son entreprise Tesla, c'est une entreprise qui fait plein de choses. Et ça ne va pas se limiter à voitures. Donc pourquoi aujourd'hui mettre toute son énergie là-dessus? Et tu vois, aujourd'hui, tu as des entreprises qui fonctionnent très bien avec de très belles marges, Porsche pour ne pas les nommer, mais qui ne sont jamais descendues en dessous d'un segment d'à moins de 60 000 euros. Et ça fonctionne bien. Est-ce qu'il a besoin?
Non, mais là, parce qu'on est dans le luxe, mais une Tesla, c'est pas une voiture. C'est pas. C'est enfin, le.
Oui, mais c'est pas luxe.
C'est pas luxe. C'est pas luxe.
C'est pas comparer une Tesla à une Porsche.
D'autres voitures, c'est pas.
Non, d'accord.
En termes de finition.
Non.
C'est pas une voiture de luxe.
Un modèle S, je suis désolé, un modèle S, ça coûte plus de 100 000. Je ne te parle pas du modèle Y ou du modèle 3 de tout le monde.
En qualité intérieure, va chez Mercedes ou va chez Audi ou les.
Enfin, ou BMW.
Les BMW, la qualité à l'intérieur, on est non, quand même.
Là, tu me parles de qualité, moi je te parle de clients. En fait, si tu fais la segmentation de marché, les clients qui ont acheté des modèles S au départ sont des clients qui achetaient des Porsche. Moi je les connais ces gens-là, on était en Californie, machin, etc. Et à une époque, ils avaient soit une Jaguar, soit une Audi parce que ça faisait européen. Et à un moment, ils ont acheté américain en plus, et c'était Tesla. Okay, ça, c'est le segment S, et il n'y a pas tant de personnes que ça. Et il a pris sa part de marché qu'il voulait dessus. Quand tu descends d'un niveau, tu vas avoir du modèle Y et du modèle 3, et là, c'est pareil, tu vas être sur des couches quand même de la population qui gagnent bien leur vie. Est-ce que tu as envie de descendre sur une couche inférieure? Je ne suis pas certain. Est-ce qu'il y a besoin pour une marque comme Tesla? Je ne suis pas certain.
Le problème, c'est que s'il n'a pas le modèle inférieur, il va se faire manger par les. Par
bon,
les
en tout cas, il y pense.
En fait, il y a plein, encore une fois, de... Tu vas chez Jaguar, tu vas chez plein de constructeurs, ils n'ont pas de modèle à 20 000. Ça n'existe pas. C'est pas
oui,
c'est
mais
pas
eux, ils sont sur un autre créneau.
Après, il y a la réalité des
faits. Même Volvo.
Je pense que pour aujourd'hui, si on veut que
Volvo,
la voiture électrique,
c'est Geely.
Oui, maintenant t'as raison. Oui.
Si on veut que la voiture électrique se démocratise, il faut que les prix baissent, parce que effectivement, on peut pas rester à 30 000 euros prix d'entrée pour une voiture électrique. Bah, donc c'est pour ça que batterie. Peugeot, Citroën essaient de sortir des véhicules.
C'est deux débats différents.
Il a fait sa part du job.
D'électrifier cette industrie automobile qui se bougeait pas, il leur a donné un coup de pied dans le derrière, et maintenant, je peux me tromper, il se dit, ok, moi je commence à regarder le next
donc step. Donc pour toi, il va pas sortir une modèle 2 qui serait à 25 000 dollars, par exemple.
Je vois pas forcément un intérêt fort pour un Tesla de faire ça.
On arrête là?
Parce que autrement, le problème, c'est que ses clients, ils sont sur le marché de la voiture. Ils ne sont pas sur le marché du next step.
Ouais, mais c'est le marché du next step, ils seront là.
L'avenir nous donnera raison.
Il n'y a que Marjorie qui est sage ce soir.
Tu vois, quand je peux être extrêmement sage.
Oui, c'est vrai.
C'est fou.
Oui,
c'est vrai. Je sais qu'on ne dirait pas comme ça, mais.
tu as dit ce que tu voulais dire.
Exactement. Mais j'ai plein de choses à dire encore.
Mais je sais.
D'ailleurs, je vois que mon micro n'est pas. Je ne sais pas si vous m'entendez depuis tout à l'heure, je ne l'ai pas allumé.
Non, on t'entend. Même,
ah oui, c'est celui qui est là, d'accord.
Voilà, c'est celui qui est sur ta gauche. Allez, autre sujet. Très important aussi, c'est en fait l'intelligence artificielle et les émissions de carbone liées à cette IA et notamment générative. C'est Google et Microsoft là qui tirent la sonnette d'alarme. Alors ils tirent la sonnette d'alarme, mais bon, ils sont responsables de ça aussi. Hein, oui. C'est-à-dire que ils poussent l'IA générative, ils se rendent compte que ils explosent en fait leur quota d'émissions carbone. Ils tiendront pas leurs objectifs. Oui. Et ça, ils n'ont pas vu venir, Marjorie.
Alors oui et non. Alors il faut dire que d'abord, du côté de Microsoft et du, alors on est sur des nuances hein, d'engagement en termes de neutralité carbone. Du côté de Google, on veut être net neutral, donc on veut être à une neutralité carbone en 2030. Du côté de Microsoft, on veut même aller vers un bilan carbone inversé qui devrait être même négatif pour 2030. Mmh. Et chez Amazon, parce que ça va forcément être le troisième gaillard de la bande, on veut être net neutral pour 2040. Donc on se donne encore une petite dizaine d'années supplémentaires pour y arriver. La problématique, c'est qu'avec tous les efforts qui ont dû être consentis par ces trois grands géants en matière de recherche, développement et de mise sur le marché de produits d'intelligence artificielle et en plus d'IA générative, forcément on explose les compteurs. On explose les compteurs en matière d'utilisation d'énergie, d'électricité brute, mais aussi d'eau pour pouvoir aller stocker toutes ces datas dans les data centers qui sont notamment...
Là, on parle des émissions CO2. Hein.
Oui, on parle des émissions CO2, mais tu as aussi la partie eau. Je ne dis pas que l'eau est comptée dans les émissions CO2, mais dans le bilan
infiné, le bilan environnemental n'est pas bon du tout.
Alors, les chiffres, on va pouvoir débattre des chiffres si vous le souhaitez, mais ça se compte en milliards à chaque fois d'émissions, de tonnes d'émissions et en milliards de litres aussi générés du côté de l'eau. Moi, ce que je retiens, c'est que Google, tous ces géants sont obligés de publier leur bilan environnementaux parce que c'est le moment jamais et parce que aussi aujourd'hui on a de la taxonomie et on a aussi des critères ESG.
Et eux ils achètent des crédits hein, d'ailleurs.
Ils achètent des crédits carbone et on a aussi une taxonomie et des critères ESG.
Ça doit coûter une fortune d'ailleurs ça.
Oui, et des critères ESG qui font que désormais c'est soumis aussi au marché et à la sanction du marché du régulateur. Mais ce que je trouve quand même assez intéressant, c'est de regarder du côté des plus technotimistes d'entre eux, qui ne font pas partie de Google, de Microsoft et d'AWS, mais de leurs partenaires et fournisseurs. Quand, par exemple, Sam Altman nous dit « Ne vous inquiétez pas, au contraire, plus on va pouvoir développer de l'IA et de l'IA générative, et quand on aura une super intelligence, donc de l'IA gen, vraiment, là, on va pouvoir résoudre toutes les questions liées au climat. » Ben, formidable. Donc, il faut encore plus dépenser en capacité d'électricité.
C'est-à-dire que la réponse à cette pollution, ça sera l'intelligence artificielle.
Quand on aura bien dépensé toute l'électricité et toute l'eau du monde, on pourra enfin avoir une réponse géniale. Quand tu vas voir du côté de AWS, là, pour le coup, vraiment le patron des data centers, lui va te dire à chaque fois qu'on est confronté à un challenge, on a su innover. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas innover. Il n'a peut-être pas tort en langue. Je ne vois pas pourquoi on ne saurait pas innover en matière de meilleur refroidissement des data centers et d'utilisation de l'électricité. Et le mieux, c'est quand même juste chez NVIDIA, Jason Huang, qui dit plus on va déployer des calculs rapides, plus finalement, on aura moins besoin de surconsommer de l'électricité, puisqu'on ira beaucoup plus vite et donc on sera moins consommateur d'énergie.
Bon, Salim, dans un instant, Fred.
Bienvenue dans le monde de la frugalité, encore une fois, enseigné par les ingénieurs français.
Monsieur qu'est-ce frugal.
Qu'il y a c'est optimisation des infrastructures.
Qu'est-ce qu'il est frugal?
Mais optimisation des infrastructures. Alors, ils l'ont fait avec un peu de serveurs virtualisés, tout ça, mais il y a beaucoup à faire dans ce domaine. On a développé rapidement des data centers. Heureusement, les nouveaux ont fait un peu attention à tout ça. Optimisation des algorithmes et des modèles. Ça, les Américains, ils sont pas très forts dans ce domaine-là. Optimiser les algorithmes et les modèles. Je ne dis pas que les Français sont meilleurs, mais en tout cas, les Français ont montré une certaine qualité. Pour déployer aussi, nous, on aime bien, alors nous, les Français, on aime bien déployer par étapes et tout ça. Eux, les Américains, ils y vont en masse. GPU, on met GPU. Et puis là, ils commencent à dire, les TPU, c'est peut-être pas mal. On est en train de revoir un peu tout ça. Ensuite, tu as tout ce qui est la gestion, planification des ressources. Est-ce que je vais consommer, où est-ce que je vais installer mes data centers? À quelle heure je vais consommer plus? Est-ce que dans une région venteuse de tout ça, il y a toute cette partie-là? Et puis après, il y a toute la partie formation, sensibilisation des ingénieurs. Là, c'est le travail pour la planète entière, parce que là, tout le monde aujourd'hui, il va un peu gaiement. Et moi, je pense que c'est tout ça, sur ce sur quoi il faut tout retravailler. Il y a 4-5 points comme ça. Et aujourd'hui, alors on a les Google, les AWS et Azure, ils sont en train de remplacer, dans les data centers, optimiser leurs infrastructures. Mais voilà, nous, je pense qu'un OVH a fait beaucoup plus dans ce domaine ces derniers temps, avec moins de moyens, avec tout ce qu'on peut imaginer face à ces hyperscalers. Mais c'est là où je dis que nous, on a peut-être notre carte à jouer. Je reviens avec mon drapeau Cocorico, parce que nous, on est habitué à ce truc-là. On doit faire des infrastructures qui consomment moins, on doit faire des algorithmes qui consomment moins, on doit faire attention à quelle heure on va consommer de l'énergie. On n'a pas beaucoup de GPU parce qu'elles sont piquées par les autres. Eh bien, on va essayer de développer des... Voilà, c'est un peu tout ça.
Ça me rappelle le slogan des années 70, on n'a pas de pétrole.
Bon, on n'a pas de pétrole, mais on a
dans la même philosophie. C'est dingue, Salim.
Pas exactement, malheureusement. Enfin, de mon point de vue, on n'est pas dans la même philosophie parce que là, tu as quand même besoin de pognon et pas que des idées, donc on n'a pas ce pognon et donc on n'a pas le pétrole et donc c'est bien ce que tu dis, mais c'est pas scalable, on peut pas le mettre à l'échelle au niveau mondial tout ce qu'on fait en France, et c'est dommage
je dis pas que la France est mieux, je dis aujourd'hui pour faire des data centers qui émettront moins de CO2.
Oui, mais en fait non, parce que même si tu trouves, alors sauf si tu as vraiment le truc et que tu vends ensuite à tous les hyperscalers, à la Google, Amazon, Microsoft, etc., et qu'ils l'intègrent dans leur data center.
Attends, je dis pas que c'est les Français qui détiennent ça. Je dis, voilà les efforts à faire pour tout le monde autour pour consommer.
Pour toi, c'est pas un Français qui va développer cette.
Non.
Mais donc, les Américains continuent à le faire.
On a un peu plus travaillé ça que les Américains qui, je déploie les data centers,
il se passera jamais le temps où un Américain mettra une technologie française dans un data center.
C'est pas ça que je voulais dire. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est que
par accident peut-être
sur tout ce que je disais, optimisation de l'infra, des algorithmes et tout ça, on a pris un petit peu l'avance.
Alors réflexion, Salim.
Alors moi c'est marrant parce que ça me rappelle, j'ai invité un dîner l'autre jour avec plein de patrons qui c'était le thème RSE et IA. Et je commençais en leur disant, mais c'est antinomique. Tu peux pas, en fait. À aujourd'hui, c'est complètement antinomique. Effectivement, plus tu vas faire d'IA, plus tu vas consommer. Après, il y a deux écoles. Et vous en avez parlé un peu. Il y a l'école qui dit, à la Sam Altman, on fonce et on va trouver des solutions. Et c'est pas complètement déconnant. Mm-hmm. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, notamment les puces Nvidia, notamment toutes celles qui sont sorties, et particulièrement la prochaine, beaucoup plus de puissance, beaucoup moins de consommation énergétique. Donc quelque part, l'équation n'est pas complètement délirante de se dire, avec les progrès technologiques, on va savoir consommer moins. Donc ça, c'est pas mal.
On en construit plus, émissions de CO2. Donc
mais,
moi, je reviens sur mon histoire
avec les CO2 aussi. Hein. Mais par contre, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de puissance. Donc le net-net, il est quand même négatif parce qu'on va consommer plus. Et il y a des gens qui disent, on est dans de la totale folie.
3-8% de
On est dans de la totale folie. Moi, je suis un peu entre les deux. Je suis quand même côté un peu plus folie. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas, de mon point de vue, réussir à aller suffisamment vite pour trouver les solutions par rapport à ce qu'on émet aujourd'hui. Et comme c'est en train de boomer, tu vois, et c'est un peu le pompier pyromane qui me
fait. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à éteindre un incendie trop important.
Voilà.
C'est quand on sera prêt.
Mais exactement. Et parce qu'on ne veut pas travailler sous contrainte.
On veut aller vite. Il y a Microsoft qui disent on est étonné. Non, tu ne peux pas être étonné, en fait. C'est toi qui crées cette technologie.
Ils ont même recruté des ingénieurs pour travailler dans le nucléaire, pour faire des SMR, des petits réacteurs nucléaires.
Il était vrai déjà depuis 2019 dans certains data centers. Mais là, ça a complètement explosé, en effet.
Donc, l'hypothèse de Sam Altman ne se réalisera jamais. On aura fait exploser la planète avant.
Non, mais il y a lisez le bouquin de Gilles Babinet, Green AI, qui est pas mal, qui montre comment l'IA peut apporter des solutions à différents métiers.
Il nous reste 5 minutes, 6 minutes. J'aimerais quand même qu'on évoque le sujet Netflix.
Merci.
Pendant les infos, tout le monde se battait pour évoquer ce sujet-là. Enfin, pas tout le monde, mais...
Certaines personnes.
Écoutez, voilà. En ces périodes électorales, là, c'était la majorité. Je suis désolé.
C'est vrai. Puis Marjorie qui consomme beaucoup de Netflix. C'est
qui consomme beaucoup de Netflix. Et non, mais parce que c'est fondamental pour le futur du marché du streaming.
Alors, on en parle. L'actu de Netflix, c'est que, dans certains pays, Netflix est en train d'enlever une ligne d'abonnement sur son offre. Qui a d'ailleurs été retiré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez l'abonnement qui est à $10, je crois, enfin à peu près, vous ne pouvez plus l'avoir. C'était l'abonnement, on va dire, assez intéressant parce qu'on avait tout le contenu Netflix, on pouvait télécharger, on avait du 1080p, mais on n'avait pas de pub. Et là, dans certains pays, je crois que c'est au Royaume-Uni et au Canada,
notamment,
Netflix envoie des messages à ses abonnés qui ont cette offre-là à $10 pour leur dire attention les gars.
Essentielle.
Voilà, l'offre essentielle, elle est plus essentielle. Elle est superflue maintenant. D'ailleurs, on va l'appeler l'offre superflue. Vous avez le choix entre soit downgrader et passer à l'offre payante avec la pub qui est à $6, soit vous montez en gamme à l'offre à $14, mais cette offre à 10, eh bien, elle va disparaître.
Mais en l'occurrence, c'est pas superflu pour Netflix, parce que ce qui se joue là, c'est le futur du financement de la création et surtout du marché du streaming. Aujourd'hui, les relais de croissance pour le streaming, alors Netflix a innové un peu avant 2014, avant l'arrivée en France, mais Netflix, c'est une boîte qui pivote d'abord tous les 10 ans. Et qui a très bien su le faire dans ses premières décennies. Là, 2014-2024, la façon de pivoter, on pensait que ce serait sur le fait d'aller disrupter le cinéma en tant que tel, alors qu'elle avait déjà disrupté la télévision. Finalement, c'est dans le modèle économique qu'elle va aller chercher son pivot et son relais de croissance. Tout le monde se bat aujourd'hui, et c'est le cas même en France pour des acteurs comme TF1, avec TF1+, M6+,
MyCanal.
MyCanal. Le relais de croissance en matière de business, il est sur la publicité digitale. Tout le monde va aller chercher une part. Tout le monde va aller chercher le CPM que YouTube a su si bien. Et la pub ciblée aussi. Mais tout le monde va aller chercher ce segment-là. que YouTube s'est si bien commercialisé. Sauf que typiquement un TF1, quand il va aller voir son annonceur, il va dire, il va falloir qu'il montre et qu'il explique pourquoi c'est beaucoup plus intéressant de venir prendre cette publicité chez lui sur TF1+, plutôt que de le laisser à YouTube, même si c'est beaucoup plus cher de venir investir chez lui. Pour Netflix, finalement, c'est la même chose. Oui, Netflix a démarré en se disant « Venez chez moi, je suis une super contre-proposition au contenu existant sur un écran qui s'appelle la télévision, parce que justement, je ne vous impose pas de coupure pub et que vous avez la liberté de venir consommer le contenu que vous souhaitez, au rythme que vous souhaitez. Là, je réimpose de la pub, parce qu'en l'occurrence, si je ne prends pas ce segment-là sur le marché de la pub digitale...
C'est quelqu'un d'autre qui va le prendre.
Complètement. Or, c'est déjà le cas de Disney+, c'est déjà le cas aussi de Prime Video qui a aussi lancé son offre publicitaire. Donc on est, et qui est de façon plus militaire à la limite, hein, même, parce que quand t'es abonné Prime, t'es obligé d'avoir de la pub au bout d'un moment, même si t'as choisi une offre dans laquelle t'en avais pas au départ. Donc c'est vraiment là où ça se joue sur la bataille du relais de croissance pour ces streamers-là, qu'ils soient gratuits ou pas.
Salim, si t'as rien à dire, on enchaîne avec
Fred. Non, mais de façon très, très triviale, en fait, sans aller jusqu'à cette stratégie que tu décris très bien, c'est, il y a un moment, faut entrer du cash.
Oui.
Donc, il y a un moment, tout ça, ça se finance. Un des moyens faciles, et c'est pas ici que je vais vous l'apprendre, de financer des médias, c'est de faire de la publicité. Il y a des annonceurs qui sont prêts à payer. Et là, tu vois, tu prenais le cas de TF1, la grande force d'un YouTube à la base et qui devient aujourd'hui la grande force d'un Netflix, c'est d'avoir un réseau qui est mondial. Là où TF1, ben, tu vas être limité sur une zone géographique.
Oui. Mais t'as de la data ultra qualifiée.
Oui, mais là aussi. Mais là aussi, sur un Netflix, t'as de la data encore plus ultra qualifiée que sur un TF1 parce qu'il la capte de façon native au départ et que tout a été prévu pour, ce qui n'est pas le cas chez TF1. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est juste un moment où il faut rentabiliser. On ouvre les vannes de la publicité et c'est logique ce qui se passe.
Fred, pour terminer, ton micro.
En guise de clin d'œil, je me dis juste un peu comme Meta doit se dire « Ah, flûte, nous, on veut avoir des abonnements. » Enfin, c'est un autre domaine, mais ouais. L'abonnement payant...
Oui, t'as raison.
L'abonnement payant sans pub et l'abonnement... Et on me l'interdit. Enfin, bon, ça, c'est un autre univers.
C'était la petite blague honnête de Fred.
Voilà, mais non, non, mais...
Elle est belle. Elle est belle.
Elle est belle.
Elle est bien placée.
Non, non, mais là, Netflix, ça revient... Netflix, n'oublions pas qu'au départ, c'est une société qui a monté toute son offre sur de la data de ses clients, la data de ses contenus, qui ensuite est devenu producteur, enfin voilà, toute cette aventure. Et aujourd'hui, la data, elle leur sert pour tout ça. Elle leur sert pour avoir de la pub encore plus ciblée. La pub, ça marche, ça, et quand c'est ciblé, ça marche encore mieux. Donc ils ont ça. Et puis moi, je pense qu'aussi avec cette pub, comme ils sont producteurs, ben, ils vont commencer aussi à faire des placements produits, ce genre de choses. On le voit.
Dans
pas mal de films.
Donc, ils sont vachement en avance par rapport à un test.
Donc voilà, ils ont cet atout-là. Et moi, je trouve que c'est bien d'avoir ces deux pieds. Et puis, quelque part, ça rassure les investisseurs aussi.
Mais complètement. Et après, on sait que Netflix.
Parce que quand on est toujours en train de regarder le nombre d'abonnés, on dit ils ont perdu 13 millions d'abonnés, tout ça.
Non, mais parce que Netflix a toujours été très endetté. Par ailleurs,
pas grave, ils compenseront.
Et juste un dernier mot là-dessus, l'actuel CEO, enfin, il y a deux co-CEO chez Netflix, mais Greg le dit très bien. Il dit voilà, nous, les pays dans lesquels on opère, dans lesquels on a le plus d'abonnés, ça représente 80% du marché de la pub digitale. Donc on ne peut pas ne pas y aller. Et donc je préfère avoir, à la limite, perdre des abonnés à 10$, mais en gagner plein à 5,99.
Oui, ouais. At the end of the day, on parle d'argent et c'est un moyen assez simple.
Prix,
il faut scruter en fait la progression du chiffre d'affaires de Netflix dans les mois qui viennent.
Ça risque d'être
à mon avis, ça va être sympa. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci pour cet excellent moment à tous les trois, comme souvent d'ailleurs. Merci beaucoup Marjorie.
Comme toujours.
Je dis comme toujours, moi. Je suis déçu du
comme
souvent.
Comme souvent.
Si je dis comme toujours, comme vous n'êtes pas là tous les soirs, ça casse un peu le
confinement.
Ouais,
si vous voulez. J'avais l'impression d'avoir un 7 sur 10, qu'on n'était pas. On n'était pas 9,99.
On devrait se noter à la fin, là.
C'est oui, ça, comme Jacques Martin, voilà. les plus anciens.
Si donc,
même moi, j'ai connu Jacques Martin.
C'est celle des fans. Merci beaucoup Marjorie Paillon, donc journaliste. Merci à Salim Nassur.
Merci.
Fondateur de Mars avec deux. Voilà. Et merci à Frédéric Simotel.
Avec deux T.
Avec deux T. Bien évidemment, journaliste à BFM Business. Vous restez avec nous. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec beaucoup de plaisir, bien sûr. Et on va parler véhicules autonomes. Et je vais vous présenter deux sociétés qui œuvrent dans ce domaine-là. Vous allez voir, ça avance très, très, très vite. Je vous les présente dans un instant. Juste après le Tech Flash de Léa Benaïm et puis notre petit détour du côté de la rédaction de Tech & Co. A tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.